RTS La Première présente Mystifica Science, saison 2. Un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques. Avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
On présente souvent, et à raison, la lutte contre le trou dans la couche d'ozone comme une réussite politico-scientifique. D'abord, les scientifiques font un constat, puis les États signent un accord, le protocole de Montréal, qui règle le problème. Comme le rappelle l'agente Leslie, l'histoire n'a pas été si simple, car les semeurs de doutes y ont aussi joué un rôle.
Est-ce que vous savez comment cette histoire de protection de la couche d'ozone a commencé? Avec le TSS, les transporteurs supersoniques. Nous sommes le 2 mars 1969, à l'aéroport de Toulouse. Le public assiste au premier vol de Concorde. Pire encore pour les Américains, 2 mois plus tôt, le 31 décembre 1968, le URSS faisait un vol d'essai avec le Tupolev 144, sans TSS. Enfin, ça se discute parce que sa conception a été faite en bonne partie grâce à l'espionnage soviétique en France, mais ne nous égarons pas. En 1969, en tout cas, les États-Unis sont verts de jalousie et ils rêvent à leur TSS. Boeing imagine les choses en grand et projette une flotte de 850 appareils, 3 fois plus gros que le Concorde. Et l'une des questions que l'on se pose est l'impact sur l'environnement en général et sur la couche d'ozone en particulier.
Alors, pourquoi lier ces avions, ces fameux TSS, à la couche d'ozone?
Eh bien, ils volent plus haut que nos avions de ligne, à près de 20 000 mètres. Ils approchent, voire pénètrent, parfois, cette fameuse couche d'ozone. Et justement, à cette époque, d'autres recherches font un lien entre les radiations ultraviolettes et certains cancers de la peau. Ce que l'on savait déjà, c'est que cette couche d'ozone bloque une partie des ultraviolets. Donc, on s'inquiète de tout ça. Dans un premier temps, les spécialistes de l'atmosphère s'intéressent à la vapeur d'eau dégagée par les moteurs de TSS. Mais leurs premiers calculs sont rassurants. Même une flotte de 850 TSS ne réduirait la couche d'ozone que de 2 à 4%. Pas de souci. Mais certains chimistes de l'atmosphère se penchent sur d'autres gaz que la vapeur d'eau, notamment des oxydes d'azote, largement émis par les réacteurs de TSS. Assez vite, le projet de TSS américain fut abandonné, pour les raisons économiques et non environnementales, mais un autre engin va s'inviter dans cette histoire. Un appareil en développement en 1970 qui, lui, va traverser la couche d'ozone. La navette spatiale.
Mais qu'est-ce que la navette spatiale vient faire dans cette histoire?
Eh bien, les propulseurs de la navette devaient utiliser un carburant à base de chlore. Et on avait quelques raisons de suspecter le chlore d'avoir lui aussi un impact sur la couche d'ozone. Ce qui va se passer est assez étonnant. La direction du programme navette à la NASA demande une étude d'impact sur l'ozone à 2 chercheurs de l'Université de Michigan. Leurs conclusions sont claires. La navette relâchera dans la stratosphère beaucoup de chlore, qui est connu pour détruire la couche d'ozone.
Voilà qui n'a pas vraiment dû arranger la direction du programme navette, comme vous l'appelez.
Ah oui, et ils vont avoir une réaction très simple. Enterrer le report et demander aux 2 chercheurs de ne pas en parler.
Oui, c'est simple, comme vous dites.
Résultat, nos deux spécialistes de la chimie de l'atmosphère se trouvent dans différentes conférences à parler de l'influence sur la couche d'ozone du chlore émis par les volcans.
Les volcans. Parce que les volcans émettent également du chlore.
Oui. Et honnêtement, ça ne passionne pas nos deux scientifiques, mais c'est un moyen pour eux de parler de leurs calculs sur l'influence du chlore sans contrarier la NASA. C'est-à-dire sans parler de la navette spatiale. De conférence en conférence, les chimistes de l'atmosphère s'intéressent au chlore et à la couche d'ozone. Et deux études d'autres chercheurs vont permettre d'y voir plus clair.
La première étude à laquelle fait référence l'agente Leslie est celle du scientifique anglais James Lovelock, qui, avant de devenir un penseur environnementaliste et père de l'hypothèse Gaïa, était avant tout un spécialiste de l'atmosphère. En 1970, Lovelock s'intéresse aux CFC, les chlorofluorocarbones, très utilisés par l'industrie. Il montre que ceux-ci restent stockés dans l'atmosphère. Selon lui, la quasi-totalité des milliards de tonnes de CFC produits par l'industrie doit forcément être prisonnière de l'atmosphère. La deuxième étude, fruit du travail de trois chimistes, Rowland, Molina et par ailleurs Crutzen, montre comment les CFC se décomposent dans l'atmosphère. Parmi les produits de cette décomposition, il y a le monoxyde de chlore, le fameux chlore qui attaque la couche d'ozone. Cette étude fut publiée le 24 juin 1974 dans la revue scientifique Nature. Pourtant, comme l'expliquent Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur ouvrage « Les marchands de doute » aux éditions Le Pommier, il faudra plus de 10 ans, 13 exactement, jusqu'à ce que des mesures soient prises. Alors, que s'est-il passé? C'est ce que nous raconte l'agente Leslie.
Dès que l'étude de Rowland et Molina fut publiée, étude qui prouve que le CFC se transforme en chlore et attaque la couche d'ozone, c'est le début de ce qu'on va appeler la guerre de l'ozone. La première industrie qui se sent menacée par cette révélation est celle des aérosols, car à l'époque, les gaz propulseurs de tous les aérosols, du déodorant à la peinture, sont les CFC. L'industrie chimique se mobilise immédiatement avec deux objectifs. Faire les études scientifiques de leur côté pour voir si les conclusions de Rowland et Molina sont bonnes et créer un bureau d'information, entre guillemets, dont l'objectif est de défendre le produit.
Bon, alors j'allais dire, c'est de bonne guerre. Hein. Et alors, ils vont faire quoi? Payer des scientifiques pour refaire les études sur les CFC dans l'atmosphère?
Oui, mais voyant qu'ils arrivent au même résultat, ils changent de stratégie. Ils vont utiliser ce budget de recherche, assez conséquent d'ailleurs, environ 5 millions de dollars, pour identifier des chercheurs dont les conclusions sont différentes de celles de Rowland et Molina. Parmi eux, un brillant météorologue anglais, Richard Scorer, y pense sincèrement que l'atmosphère est l'élément le plus robuste et le plus stable de l'environnement. Ainsi, il estime que les CFC ne peuvent pas avoir une réelle influence sur l'atmosphère. Le lobby industriel lui offre une sorte de tournée américaine, 5 étoiles. Il va de ville en ville faire des conférences pour expliquer que l'idée de la destruction de l'ozone est une histoire pour faire peur. Et dans un premier temps, l'objectif est atteint. De nombreux médias reprennent les propos de Scorer. Jusqu'à sa conférence à Los Angeles, couverte par le Los Angeles Times, qui fait un travail un peu plus sérieux que la concurrence. Et précise dans son article que la tournée de Scorer est payée par le lobby industriel. Le journal dit clairement que Scorer est un tueur à gages scientifique. Il perd toute crédibilité dans ses débats, rentre au Royaume-Uni, mais ses arguments, eux, restent.
Est-ce que d'autres scientifiques, entre guillemets, sérieux, travaillent pour confirmer ces études de Rowland et Molina, pour, entre guillemets, prouver la culpabilité des CFC?
Ouais, heureusement, oui. Et il s'est même passé quelque chose d'assez amusant. Avec des ballons-sondes envoyés dans l'atmosphère, on pouvait observer précisément qu'il y avait de fortes concentrations de chlore à l'altitude précise où Rowland et Molina avaient estimé que le CFC devait produire du chlore. Mais il y avait encore un gros souci. Si les ballons-sondes donnaient les résultats attendus, ça n'était pas le cas des satellites qui, eux, au contraire, trouvaient une couche d'ozone plutôt en bonne santé, notamment au-dessus de l'Antarctique, où, pourtant, on s'attendait, avec les modèles atmosphériques, à trouver une couche d'ozone plus faible. Alors, pourquoi? En fait, un satellite ne fait pas de réelles mesures de la couche d'ozone. À partir d'images, il évalue l'épaisseur de cette couche. Jusqu'en 1979, avec les ballons-sondes, on n'avait jamais mesuré moins que 220 Dobson.
Dobson, qu'est-ce que c'est que ça, les Dobson?
Le Dobson est l'unité de mesure de la couche d'ozone. Et ne me demandez pas l'explication, okay, s'il vous plaît.
Mais Dobson,
merci. Voilà, Dobson.
De la couche d'ozone.
Oui. On considère que 220 était la valeur la plus basse. Et le logiciel qui analyse des images satellites considéré donc comme une erreur, une mesure de moins que 180 Dobson. Ainsi, les responsables des analyses des données s'étaient discrètement étonnés d'avoir beaucoup d'erreurs de mesure au-dessus de l'Antarctique. Mais on ne se vante pas des erreurs d'un système.
Et donc, ce qu'on avait estimé être des erreurs, c'était un immense trou.
Mais voilà. Et un chercheur qui tentait de comprendre cet écart entre les ballons-sondes et les satellites réussit à remettre de l'ordre dans tout ça et prouver qu'il n'y avait pas de mystère. Mais, vous l'avez dit, un grand trou au-dessus de l'Antarctique où, heureusement, peu d'humains vivent. Nous sommes là en 1985. Et il n'y avait plus vraiment de doute. L'étude de Rowland et Molina disait vrai. Les CFC détruisent la couche d'ozone.
Oui, mais l'étude date de 1974, hein, la première publication de ces deux chercheurs. Et là, on est en 85, donc déjà plus de 10 ans ont été perdus.
Si l'on veut être positif, on dirait que 10 ans ont été nécessaires pour valider complètement les études préliminaires. Mais n'allez surtout pas croire qu'à partir de là, ce sera un grand consensus jusqu'au protocole d'accord de Montréal. Au contraire, car un semeur de doutes redoutable va encore entrer en scène. Il faut peut-être rappeler un élément de la politique américaine. Depuis 1981, les États-Unis ont pour président Ronald Reagan. Et l'histoire a montré que son gouvernement a été farouchement opposé à de nombreuses mesures de protection de l'environnement. C'est un gouvernement pro-business. Et les contraintes, ce n'est jamais bon, croit-on, pour le business. En ce début des années 80, aux États-Unis, un grand nombre de groupes de réflexion conservateurs ou libertariens voient le jour. Leur point commun, ils sont anti-environnementalistes, ils voient dans les environnementalistes des communistes qui ne disaient pas leur nom.
Oui. En l'occurrence, pour la question de la couche d'ozone, il s'agit de chimistes de l'atmosphère qui parlent de science, donc pas de réglementation.
Oui, mais ce qu'ils disent va forcément mener à une réglementation, donc il s'agit de les décrédibiliser. Et pour ce faire, un homme va être particulièrement opiniâtre, Fred Singer.
Fred Singer. On en a déjà parlé, non, dans l'épisode sur les cigarettes et sur le réchauffement climatique.
Ouais, non, non, non. Vous confondez avec l'autre Fred, Fred Seitz.
Ah oui, Seitz.
Oui, mais ils ont pas mal de points communs. Fred Singer est lui aussi physicien. Il est même physicien de l'atmosphère. On le retrouvera aux côtés de Seitz sur les questions de tabagisme passif ou de réchauffement climatique, d'ailleurs. Mais pour la couche d'ozone, c'est lui qui va se faire remarquer. Il fait partie d'un de ces groupes de réflexion, la Fondation Heritage. Et puis, il est physicien en chef du département de transport du gouvernement Reagan. Donc, un homme influent. Il va multiplier des controverses autour des prétendues incertitudes sur la déplétion de la couche d'ozone. Sa rhétorique est un grand classique. Pas assez de preuves et l'absence d'un consensus scientifique sur la question.
Et alors vous dites que c'est de la rhétorique, ça veut donc dire que c'est faux?
Oh, absolument. Mais Singer le sait. Dans un article paru dans le Wall Street Journal, il explique que, je cite, « Certains scientifiques pensent que l'ozone n'est absolument pas détruit, mais que simplement, il se déplace avec les mouvements de l'atmosphère. » Mais Singer ne donne pas le nom de ces scientifiques, car soit ils n'existent pas, soit ils ne sont pas du tout spécialistes de la question.
Donc on retrouve la bonne vieille stratégie de semer un doute.
Et il fait feu de tout bois. Par exemple, le mystère des données satellites qui ne correspondent pas à celles des ballons. Bien après qu'il soit résolu, il continuera à dire et à écrire qu'il y a forcément un problème puisque les satellites ne détectent pas de trous dans la couche d'ozone. Mais toujours cette même idée. Aucune certitude ne résiste quand le doute a germé dans votre esprit. Et le plus étonnant, c'est que Fred Singer n'a jamais vraiment lâché l'affaire. Quand, à Montréal, le 16 septembre 1987, est signé l'accord multilatéral international sur la protection de la couche ozone.
Donc ce fameux protocole de Montréal.
Exactement. Eh bien, Singer criera à la victoire des environnementalistes qui ont, selon lui, les objectifs politique.
Donc toujours cette même idée, hein. Émettre une législation contraignante, ça ne peut être qu'une idée de communiste en fait.
Ah, exactement, et même lorsqu'en 1995, Rowland, Molina et Crutzen reçoivent le prix Nobel de chimie pour l'élucidation de la chimie de l'ozone atmosphérique, Singer le dit haut et fort. Le comité Nobel a choisi d'exprimer une position politique et non pas scientifique.
C'est quand même assez fou parce que, alors excusez ma naïveté, mais il me semble que c'est quand même un peu lui qui fait de la politique. Et les Nobelisés, eux, ont fait de la science.
Mais, oui, en anglais, on a une expression pour ça. The pot calling the kettle black.
Alors, en français, on dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. mais alors pourquoi? Parce qu'après tout, Fred Singer, vous l'avez dit, est lui aussi un scientifique.
Il y a plusieurs réponses possibles. La plus cynique, c'est l'argent. En tant que lobbyiste, il est très probable que l'industrie se soit montrée très généreuse avec lui. Mais en réalité, je pense que ce sont des convictions politiques qui l'ont motivé. En 1989, il écrit, je cite, « Le vrai programme des environnementalistes est celui des scientifiques qui fournissent les données sur lesquelles ils se fondent. Leur vrai programme, donc, est de détruire le capitalisme pour le remplacer par une sorte de socialisme utopique mondial, voire par le communisme. » Rappelons que, en novembre de cette même année, 89, le mur de Berlin tombait.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Isabelle Barthes. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Play RTS et Google Podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, on vous conseille d'écouter celui qui parle du DDT, cet insecticide très puissant qui, selon certains, aurait pu permettre à l'humanité de se débarrasser définitivement de la malaria.